Vous êtes sur FM Plus 91, nous sommes lundi 13 octobre et c'est l'été dans les studios, mais pas que dans les studios, aussi sur Montpellier et ses environs. Mon corps, ce poème, aujourd'hui accueille Nourdine Barra. Bonjour Nourdine.
Bonjour Nicole.
Que je présenterai rapidement avec son statut d'auteur, d'écrivain, de réalisateur et bien d'autres choses que nous allons découvrir ensemble sur FM+. Des anonymes se lèvent. Ils se lèvent et prennent la parole tour à tour. Et soudain, pour tous, toutes, le jour est plus clair, la lumière plus vibrante, de la vie s'est ajoutée à la vie, parce que chacun, chacune, a reconnu un bout de soi inconnu jusque-là, dans cette voix qui se cherche, ou dans ce regard qui se pose, ou sur ce visage qui affirme une passion, un bonjour, une tendresse amenée par une main posée sur le cœur ou ouverte vers les autres pendant que la parole se déroule. Nourdine, est-ce que c'est avec cette conviction que tu organises tes actions publiques ?
Oui, tout à fait. Il s'agit de ça, de tendre vers ce que vous écrivez très bien, ce qui participe d'une communion entre les êtres. Il s'agit de ça, de travailler à mieux nous comprendre, s'entreconnaître, moins se regarder dans la rue comme des étrangers, et de plus en plus parfois même comme une menace. Non, c'est très bien dit, ce que je souscris complètement à votre mot.
Et donc, ces actions que tu mènes, on s'était dit, il me semble qu'on se tutoyait, donc
oui,
ça doit être réciproque.
Je t'en prie.
Si ça t'ennuie pas. Donc, est-ce que c'est sur un territoire particulier pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui viennent de nous rejoindre là sur la radio, en train de siroter peut-être leur café avant de repartir au travail ou dans leur voiture, écoutant, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter un peu la radio et voir ce qui se dit au-delà de notre, comment on l'appelle, nouveau gouvernement biscornu. Donc, où est-ce que tu les mènes ? Sur un territoire ? Comment tu penses développer les projets et les actions que tu déroules aujourd'hui ?
Alors, les rencontres, ces agoras sur l'espace public sont nées à la Paillade. Je crois qu'on y est resté exclusivement pendant 2 ans, peut-être 3 ans, après quoi on s'est mis à s'aventurer dans la ville et aller dans le centre-ville, plan cabane. Le périmètre s'est élargi et puis on essaie de s'y balader de place en place en essayant d'entraîner avec nous des habitants d'un quartier à un autre.
J'ai d'ailleurs participé à une agora récente, hein, on présentait un livre, on était à Plan Cabane, il y avait un joyeux mélange générationnel, culturel, interculturel aussi, et beaucoup d'écoute, hein, dans le public, et chacun, tour à tour, pouvait donc présenter un texte, un livre dont il était ou pas l'auteur. J'ai trouvé que ça ramenait le savoir du côté des gens, des personnes qui sont présentes et qui ont envie de transmettre quelque chose et à leurs voisins d'y répondre ou pas, en tout cas de venir aussi avec un propos tout à fait différent, mais de toute façon très singulier.
L'idée de faire sur la place pour commun de nos savoirs à tous. C'est assez fascinant de les entendre les uns après les autres faire valoir autant de diversité, de façons et d'être de philosophie de vie, de leçon de vie. Je crois que c'est ce que ces tableaux sur l'espace public produisent de plus beau. C'est combien cela expose les êtres dans ce qu'ils ont de plus, chacun de plus singulier, unique et riche.
Je remarque, en t'écoutant, pour avoir grandi dans le champ de l'éducation populaire, qu'il y a un peu de ce terreau-là dans ton propos, qui est de dire tout le monde a des ressources, tout le monde a des savoirs, eh bien rejoignons-nous et partageons-les. C'est vraiment ce qui a fait la richesse de ce grand mouvement associatif teinté d'éducation populaire, qui s'est développé pendant une quarantaine d'années, qui a un petit peu moins visible aujourd'hui, peut-être parce que les associations doivent pérenniser leur vie et donc sont peut-être plus gagnées par le marché, par les conditions du marché libéral d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai l'impression de revenir, quand j'ai participé à ce temps-là d'Agora sur la place de Plan-Cabanne, j'avais l'impression de participer à une action d'éducation populaire.
Oui, il me semble aussi que l'on va dans ce sens-là, qui est le sens contraire du repli sur soi. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui dans cet exercice public tranche avec une tendance qui est plutôt à sauf qui peut, dans un chacun pour soi. Cette désunion-là, c'est ce contre quoi il faut se battre et travailler à des rencontres qui nous amènent à pu avoir autant peur. Et c'est vrai qu'on a été peut-être conduit dans une espèce de situation où on est tous mis en concurrence les uns avec les autres. Et il s'agit de ne pas céder à cette panique qui grandit et puis par la culture, retrouver un peu de sang-froid et de sens commun.
Et on va le faire avec beaucoup de tendresse, comme le chante Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur. Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Nourdine Barra sur FM+, juste après donc la chanson de Bourvil, La Tendresse. Pourquoi ce choix, Nourdine ?
Ah, j'aime beaucoup cette chanson pour ses paroles, pour son interprète aussi. Bourvil est un être qui me touche beaucoup. Il incarne cette tendresse, je trouve. Et puis peut-être aussi parce que c'est un sentiment aujourd'hui dont on se retient de l'exprimer, en tout cas pas trop vite. Pas avant d'être sûr de savoir à qui on a affaire. Et je trouve que ça vient à manquer dans nos rapports, cette tendresse qui pourrait être un préalable à tout et une entrée en matière de toutes les relations, sans spéculer sur ce que pourrait devenir cette relation. Je pense que si on s'engageait dans tout rapport avec ce minimum de tendresse, la tournure de nos rencontres virerait beaucoup mieux.
Ouais. Là, tu es en train de parler de relations qui s'installent dans la réciprocité et on n'attend pas quelque chose de particulier de l'autre, sauf de la joie d'avoir rencontré quelqu'un avec qui il y a une bonne vibration, tranquille, et on n'est pas dans des relations d'opportunité. C'est ce que j'entends, moi, de ce que tu dis. On n'est pas, tiens, celui-là, il pourrait me servir, ou celle-là, il pourrait me servir à quelque chose.
Nous ne sommes pas des êtres solitaires, et on se nourrit de l'autre, et on a le droit d'aller, et il faut aller à cette nourriture. Pour les agora, je m'attache à ce que chacun vienne avec ce don de départ, qui est de raconter un livre, mais avec un don de départ quand même. Je pense que je vois là, dans cette façon de fonctionner, un rapport plus équitable que d'attendre de voir ce que les autres peuvent vous donner pour aller à leur rencontre, quoi. Je pense que les choses se méritent. Voilà.
Alors ça, c'est un des leviers des agora que tu organises encore sur la ville maintenant, à ce jour. On peut en avoir les informations sur ta page Facebook
Oui, souvent, oui. Sur les... Quelquefois, quand la presse m'accorde l'avantage d'une annonce, c'est quelquefois relayé. Le plus souvent, j'en fais l'annonce sur les réseaux sociaux, effectivement.
D'accord. Et sinon, pareil pour une sorte de performance orale, tu proposes à des enfants ou des jeunes gens de venir s'exprimer au micro sous forme d'impro, ou est-ce que c'est avec un but particulier ?
Ah oui, vous faites allusion au cours dehors, qui est une autre modalité d'occupation de l'espace public. Il y a les agora, il y a les dites-le avec un livre, et depuis le Covid, les cours dehors, avec cette idée de conduire les jeunes dehors, des jeunes détenteurs de savoir, les amener sur l'espace public à libérer des savoirs acquis en classe, des savoirs enfermés, les amener sur les places et les inviter à faire le partage d'un peu du programme qu'ils suivent. Si je fais venir des élèves... des lycéens, s'ils sont en première, ils viendront pourquoi pas avec la proposition de parler de textes du programme de français, dans la perspective aussi d'un oral du bac pour eux à soutenir, ou alors des élèves en première ou en terminale plutôt, qui viendront faire l'exposé en public, toujours avant leurs oraux, leur exposé du grand oral du bac, mais aussi des plus petits, des collégiens, des primaires. C'est assez fantastique d'entendre une petite fille, je pense à Lynn, qui était venue nous parler, par exemple, de la planète Terre, et d'un exposé qu'elle avait eu à faire dans un cadre très scolaire et qui nous avait passionnés par tout ce qu'elle savait et qu'on avait oublié sur la planète Terre, des choses très simples. Je pense que les mômes sont tout à fait prêts à venir... à l'endroit de cette fonction-là, libérer des savoirs sur l'espace public, Et puis par là même, réenchanter un peu un dehors un peu pesant. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à l'école dehors. Je crois à la libération des savoirs, des énergies et à conduire des enfants à l'endroit d'un rendez-vous dehors où on leur livrera un peu de cette considération dont on les prive, et peut-être même d'une affection qu'on retient vis-à-vis d'eux, en lieu et place desquels nos jugements deviennent toujours plus sévères vis-à-vis de la jeunesse et les rendant peut-être un peu coupables d'un monde tel qu'il est, difficile à supporter et dont ils auraient leur part de responsabilité. On les observe dans leur mal-être, elles l'exprimaient sous des formes très différentes, comme par une violence, par exemple, qui s'exprime parfois à l'école, par un harcèlement, etc. On observe tout ça comme si on en était, nous, adultes, très étrangers. Je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse et un devoir d'accompagnement, et puis même de réparation, je dirais. Voilà pourquoi ces rencontres sur l'espace public, cette jeunesse dehors qui n'a pas à être invisibilisée.
Et ça se passe comment, ces rencontres d'enfants et de jeunes dans l'espace public? Est-ce qu'il y a une scène? Est-ce qu'ils sont au milieu d'un groupe, dans un espace ouvert, dans un espace fermé? Comment concrètement ça se déroule?
Alors sur une agora, on est tous toujours sur le même plan et il n'y a pas de scène. On est tous... à la même hauteur les uns des autres. Et ça se passe parfois dans des terrasses de café, parfois au milieu de la place, le jeune, le lycéen, le collégien, sort du public, se saisit du micro et fait valoir donc un savoir, un livre, un exposé de maths, de sciences physiques, de biologie, peu importe. Suit un moment d'échange avec le public, voilà. Un public présent parce que prévenu, et puis il y a aussi tous ceux qui s'arrêtent dans la rue et qui s'attardent et étonnés par ce qui se produit dehors, un môme au micro qui capte l'attention d'autant de gens, qui suspend un petit peu le temps aussi et ça intrigue, et les gens s'approchent, et malgré eux, et sans le savoir, ils deviennent à ce moment-là élèves d'un enseignant aussi jeune que ceux que l'on conduit sur la place. Et j'aime beaucoup aussi ce renversement de situation, mais qui se fait pas de façon tapageuse, la façon dont il se passe quelque chose plutôt de très naturel dans ce savoir qui circule, où l'on finit très vite par trouver très évident qu'un enfant, un ado, un jeune adulte, soit aussi connaisseur d'une question ou d'une autre, puisqu'il il passe ses journées à s'informer de ces choses-là, et il n'y a plus ce rapport entre l'adulte et le jeune qui soit celui d'une sorte de... finalement une hiérarchie un peu condescendante comme ça, et à la place de ces sentiments-là, on finit par même écouter très reconnaissant ce jeune qui a, avec beaucoup de courage, fait valoir un savoir. Voilà. Je trouve ce sentiment qui naît de ces rencontres-là dans une relation jeune et adulte beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste, et qui va dans le sens d'une gratitude que l'on doit à ces jeunes qui libèrent des savoirs.
J'ai remarqué, du nord de la France, d'une ville où le savoir était toujours descendant, était délivré depuis l'estrade, que ce soit celui d'un homme politique ou d'un expert, d'une femme politique d'ailleurs, ou d'un enseignant, etc. Et que toujours ça allait vers le bas, et l'autre recevait ça, qu'il soit disponible ou pas d'ailleurs. Et en arrivant dans le sud, j'avais remarqué ça, que les lieux publics où éventuellement des élus venaient à la rencontre des citoyens qui avaient voté pour eux d'ailleurs, et ben ça se faisait sur le même plan. Et moi, ça m'avait marqué parce que j'avais pas ce rapport aussi simple aussi naturel que j'ai pu le voir vivre. Et je me rappelle aussi, toujours sur Montpellier, arrivant dans un lieu où se tenaient des scènes ouvertes, où venaient tous ceux qui, ayant eu connaissance de l'événement, avaient écrit ou avaient trouvé un auteur qu'ils avaient envie de partager. Et là aussi, on était quand même, on se tenait debout quand on prenait la parole. Il n'y avait pas forcément besoin d'un micro parce que l'espace n'était pas très grand. Mais il y avait beaucoup de monde, on était très nombreux, mais il y avait un silence qui régnait dès lors que quelqu'un prenait la parole. Le temps était compté, la personne elle n'avait pas à avoir 10 minutes pour expliquer, mais le temps qu'elle prenait, tout le monde était vraiment capté, captif. Et je reprends ce mot que tu as utilisé à un moment, Nourdine, pour parler de émerveiller les choses. Et moi, c'est vraiment ce sentiment qui m'est resté autour de ce lieu, c'est l'émerveillement, la magie. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans une époque où tout va vite, où on mange les mots plutôt que de les articuler, où on est dans un, on a l'impression d'être dans un monde très clivé culturellement, géographiquement, et bien sûr les cœurs le sont aussi. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses de mon propos.
Oui, et puis je crois que cet émerveillement, ce réenchantement, et ce qui fait tout le plaisir d'assister à ces rencontres-là, c'est de se voir un petit peu mentir dans l'appréciation toujours plus péjorative qu'on porte sur l'autre. J'ai employé un grand mot tout à l'heure en disant que parfois, on s'appréhendait les uns les autres comme une possible menace chez celui qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est tout le plaisir, quand on assiste à une rencontre qui produit des choses aussi simples, c'est de se voir apaisé à cet endroit-là. À l'occasion d'un dîner avec un livre, par exemple, chaque livre s'accompagne d'une leçon de vie, d'une leçon de savoir-vivre, d'une leçon de savoir se sortir d'une difficulté. Et forcément, ça atteint des gens dans le public qui ne s'imaginaient pas, là, au coin de la rue, s'entendre indiquer une voie de sortie d'une douleur, d'une difficulté. Et tout ça, ça fabrique de la réconciliation, et puis ça chasse d'une suspicion vis-à-vis de l'autre. Je suis très attentif à ce que cette espèce de sentiment d'apaisement pourrait produire. Et puis je travaille surtout dans ce sens-là, à des conditions de réalisation de l'émergence de ces sentiments-là qui fait du bien à tout le monde.
Je crois que tu as choisi de lire un texte où il y a le mot « mère » dedans. Parce qu'on peut-être on parle d'émerveillement et qu'on attend peut-être ça d'une mère. Je ne connais pas le texte, hein, tu vas me le faire découvrir en même temps que tu vas le faire découvrir aux personnes qui nous écoutent.
Ma mère m'a rejoint 5 ans après mon départ d'Alger. En fait, aussitôt que j'ai pu la faire venir. Aujourd'hui encore, je la regarde comme en Algérie. Non, en France, plus encore qu'en Algérie, en la trouvant si différente, trop distinctement à part. De plus en plus, ici, en France, dangereusement autre. Très jeune déjà, je m'inquiétais comme ça pour elle. J'ai ce truc ici, en France, de ne pas trop vite la rejoindre, alors qu'elle est toute proche, alors qu'on est ensemble. Pour mieux observer, mieux autoriser ces moments qui vont la conduire à parler peut-être, enfin, à quelqu'un, à une inconnue qui l'approche. Là, sur le parking du centre commercial, je regarde de loin ma mère qui attend d'une autre son chariot pour le lui prendre. Nous n'aurons pas un mot l'une pour l'autre. Ma mère, bien sûr, ne se lancerait pas la première, mais ses contorsions. Son évidente timidité. Comment peut-on ne pas la mettre à l'aise tout de suite par un sourire rendu ? Un bonjour. Je rejoins ma mère avec un sentiment partagé, entre déception et soulagement. Déception parce que ces échanges, aussi courts soient-ils, je le sais, peuvent suffire à la ravir, longtemps. Soulagée aussi. Qu'aurait-elle pu se raconter ? Rien de plus que ce qu'aurait à dire le ticket de caisse de la dame laissé au fond du caddie, à la liste de courses de ma mère en arabe, qui finira peut-être par s'y coller. J'ai toujours fait attention à lui cacher du mieux que je peux cette peur que j'ai pour elle. C'est moi qui ai voulu qu'elle vienne en France. J'ai insisté, je lui ai pas vraiment laissé le choix, alors ce pays, j'en ai fait mon problème. Je guette la rumeur que nous ne serions pas ici tant que ça les bienvenus. Pour mieux la faire taire. C'est moi qui ai voulu qu'elle vienne. J'ai insisté, je n'ai pas vraiment laissé le choix. Alors ce pays, j'en ai fait mon problème. Malgré mes efforts, malgré mon attention, reste tout ce qui est autour de nous par trop de mépris, de dureté, l'aura interpellée. Là, j'ai ces mots pour elle, toujours les mêmes, que je décline sur des tons très différents. Selon les circonstances. Les circonstances. Selon qu'il soit vigile et que ça, il n'a pas le droit. Qu'elle soit de l'assistance et qu'elle n'avait pas à nous parler comme à des enfants. Qu'il soit tout bib et qu'il n'y mette pas plus de cœur. Selon qu'elle soit là pour ça et qu'elle ne tamponnera pas. Pour toutes ces choses que je n'aurais pas vu venir, que je n'aurais pas su prévenir. J'ai ces mots pour ma mère. Tout va bien. Ce n'est rien de grave. C'est rien, ça.
Quelques instants pour laisser reposer, laisser ce texte dit de mémoire par Nourdine Barra, aujourd'hui sur les antennes de FM+, un texte magnifique, j'ai les larmes dans la gorge, donc je vais les laisser passer par les yeux. Très beau texte, merci Nourdine. Merci. Et donc te voilà auteur, te voilà écrivain, te voilà aussi un homme de théâtre qui écrit des pièces, qui écrit des... Comment tu définis ça ?
J'écris, pour tout vous dire, un peu moins. J'ai vécu une rencontre avec le théâtre un peu loupée. Voilà, j'en ai même écrit un pamphlet, un peu dur peut-être, et puis, mais qui était nécessaire à ce moment-là. Ces difficultés avec le théâtre qui finissaient par m'occuper beaucoup trop l'esprit, produire en moi une vexation, une frustration qui me dérangeait dans l'action et qui, parfois, voilà, il s'agissait vis-à-vis de ce que je fais que, sur l'espace public et que j'ai raconté, d'avoir l'esprit clair et une volonté et un but qui ne doit pas être changeant. Et il naissait en moi, vis-à-vis du théâtre, des contentieux que j'aurais pu trouver tentant de conduire jusque dans l'action. Sur l'espace public, et donc de mêler à mes histoires des gens qui n'ont pas à prendre en charge mes déboires dans le théâtre. Et donc, j'ai commis ce pamphlet qui voulait être une sorte de harakiri dans le théâtre, parce que tu ne critiques pas ce milieu sans te voir aussitôt excommunié. Tu n'es pas si enclin au débat et à la discussion, même si tout dans ce texte appelé et été aménagé suffisamment pour qu'il y ait des espaces de discussion, de négociation. Et assez volontiers, j'aurais accepté de m'entendre signifier un malentendu dans lequel je serais tombé et duquel on m'aurait sorti. Mais bon, ce milieu-là, de la culture, finalement, n'avait pas fini de me décevoir parce que cette discussion-là ne l'intéressait pas. Mais c'est pas très grave. J'avance aujourd'hui et puis effectivement je me dirige vers le film et ça réactive en moi une envie d'écriture grâce à l'appel d'air que crée cette porte que j'ai ouverte en direction du cinéma.
Voilà. De l'image.
De l'image, oui.
Donc là il y a un univers qui s'ajoute. On va écouter un texte et une musique aussi de Jean-Louis Murat que tu as choisi, qui s'appelle « Au Mont sans souci ». Pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Oh, je la trouve très jolie, les paroles très belles.
On l'écoute.
« Les enfants forment une ronde, les mots non sont jolis. Allez, suer belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère où mon sans souci. Dieu les enfants aiment la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme David Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitare Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit. Quand s'entrouvraient la lumière, les portes du paradis. J'aurais passé ma vie entière au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie. Je vais dormir dans la bruyère au mont sans souci.
Voilà, Jean-Louis Murat, des voix d'enfants, il est question d'enfants et c'est une façon de faire remonter l'espoir que de parler des enfants quand même.
Ah ben oui, tout à fait. C'est l'avenir.
C'est l'avenir, exactement. Donc quel monde on leur laisse, quel monde on leur laisse. Et c'est là où il y a notre responsabilité par rapport à ce que tu as pu dire tout à l'heure, où nous devions avoir une pensée réparatrice plutôt que de désigner toujours l'autre à travers deux, trois traits qu'on va prélever comme ça sur tout un groupe et en affubler l'ensemble. Alors qu'en fait, c'est toujours au un par un qu'il faut voir les gens et que dans tous les quartiers, ben, c'est un peu banal de le dire, il y a des types bien, puis il y en a d'autres, ils ne sont pas sympas, quoi. Et puis on passe son chemin, on passe au large. Mais là, il y a vraiment dans ce pays une tendance à, voilà, ramasser des stigmates et à en affubler l'autre. Peut-être aussi pour éviter de se voir dans son miroir, mais c'est entretenu, on le sait bien quand même dans ce pays, par qui s'est entretenu depuis longtemps. Et malheureusement, ça gagne toujours plus de terrain, en tout cas dans les médias. Après, il y a les médias, puis il y a la vie, heureusement. Et il y a des places publiques où se passent de belles choses. Et il y a aussi des films où on peut se dire de belles choses.
Oui, tout à fait. C'est se défausser comme ça sur l'autre est devenu quasi un sport national. Moi, ce sont les sentiments qui m'intéressent et trouver des sentiments qui répondent à des ressentiments. Et en l'occurrence, là, cette espèce de travers qui consiste à affubler l'autre de tous les torts et de s'amender par la même, soit d'une responsabilité, d'une tournure des choses, est quelque chose, moi, qui me révolte plutôt. Et d'abord, peut-être intellectuellement.
Et est-ce que c'est le thème des films sur lesquels tu es en train de te pencher pour les réaliser,
oui,
ou
beaucoup.
Les co-réaliser?
Tout à fait. Là, je m'engage sur une série de courts-métrages. J'en suis au troisième réalisé et j'attaquerai bientôt le quatrième. Après quoi, j'irai, comme il se doit, à la recherche peut-être d'une boîte de production. Et je veux parler d'errance. d'errance dans la ville, d'errance dans nos vies. Ça s'appelle, le film s'appellera peut-être Tous ceux qui errent et il proposera une galerie de personnages qui, dans leur vie, se retrouvent un petit peu comme chacun à son endroit et de plus en plus suspendus à un monde qui tarde à se choisir un futur et qui, donc, du coup, l'hypothèque, ce futur, et nous met tous dans des états d'inquiétude qui quelquefois, produit chez... et réveille les pires réflexes. Et voilà pourquoi je dis qu'il s'agit, et par les rencontres aussi que j'essaie d'organiser, de tout de suite et avant tout venir les uns les autres... nous apaiser.
Merci Nourdine Barra.
Non, merci à vous.
Au plaisir de se retrouver pour parler du film quand il sera prêt à être produit. Eh bien, Mon corps, ce poème se conclut sur ces mots, sur cet appel, cet espoir, pas d'un monde meilleur, bien sûr.
Mon amour.